Artichaut.
C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art. L'émission que vous retrouvez sur le 101.7. C'est deux rendez-vous par mois.
Pourquoi c'est connu ?
Une belle émission culturelle et artistique qu'on propose aux auditeurs, auditrices du 101.7.
Comme vous en avez de la chance. L'artichaut, le fabuleux destin des œuvres du 19e et du 20e siècle.
Avec carotte.
Dans votre assiette, l'artichaut à la carotte, c'est très bon, sauce malo, c'est délicieux. On va parler d'art, mais c'est un artiste qui va vous parler d'art, hein. C'est pas un critique ou un auteur, un écrivain, je ne sais pas.
Waouh! C'était du générique.
Oh, super, j'adore, j'étais à fond dedans.
Tellement à fond dedans qu'il est reparti, dit.
Alors Malo, bonjour.
Eh bah, ben bonjour, bonjour à toi. C'est la troisième émission qu'on fait ensemble.
C'est pas vrai, déjà.
Du coup, on a choisi un artiste que tu connais quand même aujourd'hui pour parler d'œuvres et d'histoire.
Alors vas-y, lequel t'as choisi aujourd'hui?
Alors du coup, ça va être Paul Gauguin. Oh,
magnifique, super, somptueux.
Portrait de l'artiste au Christ jaune.
J'adore le travail de Paul Gauguin, Polo, comme on dit par chez nous, qui est un peu l'alchimiste des couleurs. Pour moi, il y a Vincent, c'est vrai qu'il y a Dali, mais Gauguin reste dans sa facture et la manière de l'utilisation de ses couleurs un exemple assez unique de ce qu'on peut faire de vraiment plus beau pour l'œil, ça scintille.
Donc l'œuvre qu'on a sous les yeux là, ça ressemble à un autoportrait.
Oui, alors il faut savoir que Polo a commencé à peindre assez tard. Donc je pense que son travail d'art s'étend sur environ une trentaine d'années. Il a dû peindre une trentaine ou une quarantaine d'autoportraits, ce qui reste quand même toujours assez peu, on va dire, parce qu'on aime les autoportraits, j'adore les autoportraits. Et donc oui, c'est un format rectangulaire en plan américain où il est au premier plan, serré, avec un pull bleu marine et un col gris, les trois quarts. Et derrière lui, il y a un bout de paysage avec un Christ jaune qui semble le regarder, enfin dont la tête du Christ est penchée vers celle de Paul. Et derrière lui, on dirait une petite statue totémique. Alors du coup, attends, on va regarder un peu ce que c'est, mais c'est comme un vase ou... Ah ben, ils disent que c'est un genre de tabatière qui est sculptée. Et si on épouse du regard l'ensemble, eh ben en fait, on voit trois têtes distinctes, mais qui se ressemblent un petit peu toutes, dont spécialement celle de Paul, et derrière, qui est presque encastrée dans le petit visage totémique. Et c'est rigolo parce que on dirait que son esprit est séparé en deux. D'un côté, il y a un Christ qui fait très breton-bretonnant dans sa campagne bretonnante, mais qui est éclatant de jaune, donc lumineux, solaire, et qui rappelle la France. Et de l'autre côté, cette figure très exotique qui appelle déjà au voyage et à une envie de son cerveau d'aller s'expatrier pour vivre des aventures plus primitives, en fait, on dirait. Et on dirait qu'il est un peu dans l'entre-décision de savoir s'il reste en France ou s'il part pour la Polynésie. Voilà ce que je dirais de prime abord.
Ouais, les couleurs sont, à part le Christ en fait, où comme tu disais, il y a quelque chose de solaire, sinon c'est quand même assez sombre, chaud.
Oui, c'est surtout par le traitement de son visage, où le gris est venu se fondre avec le rose, et donc ça donne une impression, presque d'un ciel de nuit. Son paysage est presque comme un ciel de nuit nocturne. Et on le sent pas contrarié, mais il nous regarde intensément et on sent qu'il se pose des questions profondes quant à son avenir d'homme qui a déjà franchi la quarantaine et que là il est clairement à un croisement de son parcours d'homme et d'artiste.
Il est écrit à propos de cette œuvre qu'elle nous fait entrer de plein pied dans la vie de Gauguin, dans sa vie intérieure, ses croyances et ses voyages.
Alors, ce que je sais pour en ce qui concerne cet animal, c'est que il a eu deux vies. Donc, dans la première vie, c'est un bourgeois commerçant. Il est marié avec une belle Hollandaise et il a de nombreux enfants, peut-être cinq. Enfin, il a une assez grosse famille. Et donc, il va vivre comme ça, une vie un peu de commerçant nanti. Et il va, parce que c'est un passionné, c'est un sanguin et c'est un aventurier. Il va avoir envie, justement, vers la crise de sa quarantaine, de réaliser son rêve. Et son rêve, c'est celui de la peinture. Et du coup, il va se donner les moyens de le faire. Alors, pas de la plus élégante façon, parce qu'il va devoir se débarrasser de sa femme et de ses enfants. Donc, il va pas les enterrer dans son jardin, rassurez-vous. Il va simplement les renvoyer aux grands-parents en Hollande pour que ce soit les grands-parents qui récupèrent sa famille. Et lui, il va s'engager dans la marine, peut-être la marine marchande. En tout cas, je sais qu'il va faire deux fois le tour du monde. Et sur des bateaux, donc dans des conditions de marine difficiles, hein, on n'est pas encore au XXe siècle. Et c'est là qu'il va devenir expert dans le maniement des armes, et donc des sabres et épées. Et il est dit qu'il a servi de maître pour apprendre sur les ponts aux marins à se battre avec des épées et des sabres. Donc ça, c'est le petit préliminaire pour ce que je vais vous raconter un peu plus tard dans l'histoire de Gauguin. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'en ai tiré en allant un peu voir les petits détails.
Pour presque résumer un petit peu la description de sa vie personnelle que tu t'as fait et sa vie aussi donc de passionné et d'artiste, pareil sur notre beau support, il y a écrit que c'est un artiste partagé entre deux inspirations, la mystique chrétienne et l'exotisme.
Ben ça, c'est le problème de notre civilisation, hein, c'est-à-dire s'affranchir de la religion pour trouver sa propre foi, sa propre voie, et être un peu son propre Dieu. c'est peut-être un peu ce que font les artistes, puisqu'il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Donc l'homme est nécessairement un créateur. Et je pense que quand on est dans ce principe de création et que c'est naturel, et ben c'est là qu'on se rapproche le plus de Dieu. Alors oui, clairement, je sais pas si je suis pas sûre que Gauguin ait été un fervent catholique, mais bon, de toute façon, il a bien dû se contraindre au rituel de son époque. Donc clairement, en plus, bon, la Bretagne, on sait combien la Bretagne est catholique et combien sa ferveur est dense même encore de nos jours. Et puis l'appel du grand large, quoi, l'appel de la nature. Donc quand Paul est parti pour la Polynésie, ou en tout cas qu'il a décidé de partir loin, c'est qu'il trouvait aussi que l'industrialisation qui commençait à s'étendre dans les grandes villes rendait les paysages abominables et vraiment impropres à l'art, quoi. Il refusait de peindre les nouvelles, colonnes en briques des nouvelles industries qui venaient garnir les campagnes. La voiture, le bruit, la poussière, la pauvreté, la pollution, le charbon. Enfin, la France qu'il aimait ou qu'aiment les peintres, à savoir une France naturante, naturelle, un peu paysanne, avec des paysages somptueux, est devenue complètement toxique. Donc, il a eu envie de vite prendre ses affaires et ses jambes à son cou et de se sauver pour aller aux îles Marquises. Mais entre-temps, il lui est arrivé la mésaventure de la Maison Jaune avec Vincent Van Gogh. Donc ça, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on en parle. Parce que moi, j'ai travaillé là-dessus pendant des années et j'aimerais bien, enfin la radio m'offre une petite fenêtre de parole et j'aimerais partager avec vous les conclusions que j'ai faites de cette histoire de co-création entre Paul Gauguin et Vincent Van Gogh à la Maison Jaune. Voilà, donc tu es d'accord Malo ?
Mais tout à fait, nous sommes toutes oui.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que Théo Van Gogh, le frère de Vincent, avait une galerie de peinture, qu'il avait fait la connaissance de Paul Gauguin, qui avait peint ses premières œuvres. et que Théo était tombé amoureux du peintre et qu'il l'avait mis en vente dans sa galerie. Quand Vincent est venu visiter Théo, il a vu l'étoile de Paul et il en est tombé éperdument amoureux et il a tout de suite voulu rencontrer l'artiste. Paul Gauguin, à ce moment-là, commençait son travail de peintre, donc il était désargenté, il n'avait pas encore ni de renommée ni bien sûr de clients. Du coup, Vincent a échafaudé tout un petit projet pour s'installer à Arles dans une petite maison à louer, pour y travailler avec Paul dans un projet qu'on va dire de co-création, c'est-à-dire deux artistes à forte personnalité ayant vraiment beaucoup envie de produire, à l'abri du besoin, dans des conditions idéales de travail et de création, tous les deux, pas en compétition, mais on va dire plutôt en osmose, en symbiose. Alors, à cette époque-là, et c'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est que les gens échangeaient des lettres, mais les peintres échangeaient des lettres et aussi des portraits, des petits portraits. Du coup, Vincent a peint un ravissant portrait de lui, donc autoportrait. Je ne sais pas comment on s'appelle cet autoportrait, mais il est tout vert. Et lui, il est tout solaire, tout jaune, et on dirait qu'il s'est rasé la tête. Donc, on dirait plutôt un bonze hollandais, quoi, un bonze un peu roux. Et il a envoyé donc une invitation à Paul en lui expliquant que ben voilà, il avait une vision de leur travail à deux dans une petite maison charmante jaune que Théo leur allait leur louer et qu'il avait préparé avec Théo des petites rentes de manière à ce que leur peinture, leur pigment, leur repas, leur boisson, leur prostitution et leur achat d'absinthe soit pris en charge. Donc, ils avaient vraiment tout pour être bien et pour bien travailler. Et hop, voilà, voilà, Tipac, ça arrive. Alors, Gauguin reçoit l'invitation. Et en fait, ben lui, il n'a pas de sous, il n'a pas vraiment d'atelier de travail. Et il voit ça un peu comme une opportunité du désespoir. Il n'a pas du tout particulièrement envie de travailler avec Vincent. Je ne suis même pas sûre qu'il ait déjà vu un tableau de Vincent. Mais du coup, il est un peu dans la dèche et aussi dans l'alcoolisme. Et puis, il est tout seul, hein, puisqu'il a abandonné sa femme et ses enfants. Du coup, il se dit, bon, ben, ça me fera déjà passer quelques mois d'hiver à l'abri. Et il répond en envoyant un autoportrait. Donc, ce n'est pas l'autoportrait qu'on a là sous les yeux. C'est un autoportrait où il est vraiment super marqué et où il a l'air vraiment alcoolique et où il a des grosses poches sous les yeux vert foncé. Et où on voit bien que non seulement il est démuni, qu'il est alcoolique et qu'il y va un peu à reculons, mais il y va quand même. Et donc, il arrive à la maison jaune. Donc, il se partage cette petite maison. Donc, il faut voir que c'est une toute petite maison. En bas, donc ça fait à peu près 30 mètres carrés. En bas, il y a un atelier à se partager à deux de 15 mètres carrés. Et au-dessus, il y a chacun sa petite piole. Et c'est dans un petit espace qu'ils vont travailler. Donc, je crois que leur collaboration, enfin leur non-collaboration, va durer environ 90 jours. Et ça va se terminer abominablement par l'oreille coupée de Vincent. Alors, quand Gauguin il arrive à la gare d'Arles, il s'installe ses petites affaires dans la maison jaune et le premier truc qu'il a embarqué avec lui, c'est deux beaux sabres de bretteur qu'il va aller accrocher hop, tac, tac, sur la porte d'entrée. Et puis ensuite, bon, ils vont aller faire les paysages et tout, ils vont aller un peu se balader. Et pendant cette période-là, donc, je sais pas, Vincent, il va peindre peut-être 50 toiles et Paul, il va peut-être en peindre 3 ou 4. Donc déjà, on voit bien que s'ils étaient en train de faire une petite compétition, tu vois, entre artistes, bon, clairement, c'est Vincent qui est le plus prolixe et Gauguin continue d'être à la traîne. Bon, il paraît qu'il se plaint, ça lui plaît pas, la lumière, ça lui plaît pas, nanana. Bon, bref, il fait un peu son chiant. Et clairement, ils vont aussi très régulièrement boire de l'absinthe au petit bistrot d'en face, là, à la Fée Verte. Et du coup, ils se retrouvent bon, dans des états un petit peu toxiques, on va dire. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a affaire à deux personnalités diamétralement opposées. Donc, on a un vrai homme de foi, c'est Vincent, qui a été pasteur de son temps et qui a été un très bon pasteur chez les Belges là-bas ou chez les Flamands. En Boringe, je sais pas, là où il a peint les mangeurs de patates. Et du coup, il a énormément voyagé. Hein, faut savoir que Vincent, avec son petit cabas et tout, à une époque où il n'y a que des chemins de fer et où finalement bouger n'est pas tellement à la mode, hein, il a bougé un peu partout. Il connaît bien l'Europe. Il a été jusqu'en Angleterre. Il a vécu à Paris. Enfin, bon, bref, il connaît un peu tout de la France et de la Navarre et des petits bouts d'Europe. C'est un curieux, c'est un petit peu un aventurier, mais du cœur. C'est quelqu'un qui a énormément de cœur, qui a une très grande... une très grande forme de spiritualité et d'éthique, on dirait maintenant, enfin de morale, et pour lequel la question, par exemple, du suicide est impensable. Vincent Van Gogh, tel qu'était constitué son cœur, son âme et son esprit, ne pouvait absolument pas imaginer l'idée même du suicide qui est révoltante pour quelqu'un comme lui. Donc ça, c'est pour la fin de la vie de Vincent. Mais là, on revient donc à la maison dans le vif du sujet. Et donc, ils ont dû se prendre la tête et se prendre le chou là-dedans un soir. Et je pense que, tout simplement, Paul, qui était un colérique, arrogant et égoïste, a pris un de ses sabres et il a tranché de manière, déjà dans le dos. Donc, il a attaqué Vincent Van Gogh dans le dos. Et toc, tchic, il lui a coupé de manière très droite, comme un professionnel, hein, un petit bout de son lobe. Et ensuite, il a pris ses tableaux, hop, et il s'est carapaté à la gendarmerie pour aller passer une main courante sur ce qui venait de se produire et accuser Vincent de gestes de violence et d'automutilation. Du coup, le gendarme qui a réceptionné la plainte a bien écrit ce que disait Paul à propos de crise et d'automutilation. Il a fait, ensuite quand Vincent est venu, il y a eu un petit dessin de l'oreille, etc. Et donc franchement, ça ne prête pas à confusion. C'est précis justement comme une lame de rasoir. Donc on a dit c'est Vincent qui s'est coupé avec sa lame de rasoir. Mais non, pas du tout. Et d'autre part, ça a été écrit, verbalisé dans le petit cahier de la République que Vincent était un fou furieux en fait. Hein. Et comme déjà, il avait à son actif quelques plaintes parce qu'il avait beaucoup bougé et beaucoup peint en extérieur et que sa grande silhouette dégingandée et son accent un peu rauque des plaines de Hollande passait pas bien partout dans la France raciste dans laquelle on vit, donc on connaît, donc on se doute bien. Et du coup, voilà, il avait eu quelques plaintes et du coup, ça a fini de faire un amalgame et ça a carrément fait la réputation de Vincent pour la vie jusqu'à l'éternité, ou que des gens comme moi viennent et disent stop, arrêtons de raconter tout et n'importe quoi. Donc, suite à quoi, Vincent fait une hémorragie, donc il va avoir le bon réflexe de se coller la tête sur son oreiller. Et du coup, il va faire compression et il va ne pas mourir. Et il a de la chance. Et son oreille, il a été la déposer dans les mains d'une prostituée qu'ils connaissent de leur petit bordel attitré de quartier, là, Rachel, qui va récupérer l'oreille et du coup, qui va aller à la gendarmerie donner l'oreille. Donc cette oreille, elle ne va pas être photographiée, mais elle va être dessinée, ainsi que la blessure de Vincent. Donc ça, c'est des documents que vous pouvez, qui sont à disposition. Vous pouvez aller les voir tout comme je l'ai fait. Et par là-dessus, Paul va vite descendre dans le sud, prendre un bateau pour partir en Polynésie, aux îles Marquises. Donc, aux îles Marquises, son séjour va être assez court parce qu'il va y mourir en 1903. Le souvenir qu'il va y laisser va y être très mitigé, puisque dans cette fameuse maison du Jouir que j'ai peinte, où il avait fait faire à un artisan des très beaux panneaux de bois sculptés à la polynésienne qui indiquaient Maison du Jouir avec des femmes nues gravées dans le bois magnifique de sensualité. Donc ça, c'était l'entrée de sa maison. Et il avait un petit harem de petites jeunes filles de moins de 14 ans. Ce qui fait que dans mon tableau, je l'ai mis un petit gendarme qui est venu pour le rappeler à l'ordre et lui dire que la façon dont il vivait n'était pas très autorisée sur le continent français et que les îles Marquises étant un département français, il fallait qu'il arrête sa pédophilie, hein, parce que appelons les choses comme par leur nom, quoi. Il fallait qu'il arrête ses séances de pédophilie. Donc, il a la première fois renvoyé le petit gendarme et la deuxième fois, il a été convoqué lui-même à la gendarmerie. Il y est venu avec un sabre et il a menacé le gendarme de le trucider avec son arme. Et ça, le gendarme en a fait une main courante. Donc, du coup, on a quand même quelque part écrit aussi dans les petits papiers la violence de Paul Gauguin et sa facilité à se munir d'un sabre pour régler ses affaires internes. Du coup, ben, quand j'ai eu appris tout ça, eh ben, mon sang n'a fait qu'un tour. Et comme je savais déjà que Vincent Van Gogh ne s'était pas suicidé en se tirant une balle dans le ventre de sa main gauche, ben là, j'ai carrément eu la preuve que Vincent ne s'était pas non plus automutilé. Donc après, ça m'a rendu très chagrin parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas le seul dont la vraie vie et les vraies qualités d'homme et de vie avaient été carrément passées à l'as, menti, quoi. On a menti sur toute la ligne, encore une fois. Mais dans les métiers de l'art, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de l'argent. Pourquoi nous mentir sur la vraie destinée d'un homme? Et le fait qu'en plus, il a été d'une intégrité pas possible parce que jamais il n'a dénoncé Paul Gauguin et jamais non plus il ne dénoncera l'enfant qui lui avait par accident tiré dessus. Donc, du coup, on se retrouve quasi avec un saint homme parce que pour moi, aujourd'hui, Vincent Van Gogh, c'est le saint patron des peintres. Il a été exemplaire du début jusqu'à la fin. Et par contre, donc, pour en revenir à l'histoire de l'art, donc, tous les ans, il y a un critique qui fait une bible, un bouquin de 600 pages sur la schizophrénie de Vincent Van Gogh. Et en fait, c'est devenu un fonds de commerce. En fait, c'est un mensonge qui rapporte de l'argent aux gens qui continuent à le diffuser. Et c'est le musée Van Gogh à Amsterdam qui a sous sa responsabilité la renommée du peintre. Et bien évidemment, comme c'est son fonds de commerce, sa caissette, jamais la vraie histoire sera mise sur le tapis, en tout cas pas par eux. Quant à Paul Gauguin, lui, il a des héritiers qui ne veulent pas que l'image de leur arrière-arrière-grand-père soit ternie et que sa peinture continue de se vendre très bien. Et comme tu me le faisais remarquer, ce tableau donc, a été un des records de prix de vente. Voilà un pédophile qui continue de briller à travers l'espace et le temps.
C'était incroyable comme épisode. Je ne sais pas si les auditeurs et auditrices ont autant apprécié, mais du coup, là, on a eu même une description de la vie d'un autre artiste, donc Van Gogh, que je pense on reverra sûrement au cours de nos émissions.
J'espère qu'il est dans le livre plusieurs fois.
Mais... Évidemment, j'en doute pas. Et en plus, il y a vraiment du coup un apprentissage autre. Donc, je reviens... J'ai l'impression de revenir d'un gros voyage, mais du coup, j'ai beaucoup moins d'enthousiasme à parler de cet artiste-là. On va quand même finir l'épisode de toute façon dessus, mais c'est chouette justement d'avoir une autre version que ce qu'on trouve partout dans les bouquins.
Ensuite, il faut quand même rendre à Paul ce qui lui appartient, c'est-à-dire sa maestria d'utilisation des couleurs, d'apprendre aussi la leçon de vie qu'il nous a donnée, d'abandonner un terrain de jeu inexploitable pour aller à l'aventure du monde en chercher un autre. Cette idée du primitivisme, donc de revenir à une forme d'état sauvage, pur, dans la nature, dans le sein de la nature, avec des humains belles de la nature et parce qu'elles vivent dans l'harmonie de la nature. Donc, je pense que Paul Gauguin était vraiment fou. Mais par contre, quand il juxtaposait deux couleurs, il savait très exactement ce qu'il faisait. Et je continue, malgré cette histoire épouvantable, à aimer sa peinture et à m'en inspirer parce que ces juxtapositions sont tout simplement magnifiques, quoi. Et que par rapport à ça, il faut reconnaître et dire bravo. Mais il faut savoir séparer les hommes de leur art. C'est valable aussi en musique. Il y a des musiques qu'on adore parce qu'on ne comprend pas les paroles, alors que les paroles sont absolument épouvantables ou obscènes.
Il y a des groupes qui font des choses obscènes.
Des sociétés qu'on achète et qui font des trucs bien dégueulasses. Mais c'est bien de savoir à quel râtelier on mange. C'est bien de savoir de quoi il est question et à qui on a affaire d'une manière plus globale, je dirais.
On a parlé de l'œuvre Portrait de l'artiste au Christ jaune de Gauguin, une œuvre qu'on pourrait qualifier de d'autoportrait, voire même trois autoportraits en un.
Ouais, et on voit quand même qu'il est quand même un peu narcissique et arrogant, parce qu'effectivement, trois autoportraits en un, bon, ben, ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein, donc là, on voit son lui christique, donc son lui religieux, son lui primitif, et reste à faire naître vraiment... son lui génial, son lui global, son lui complet avec la réunion de ces trois entités. Mais je pense que son côté sauvage, et il y a une forme aussi de rage qu'il avait, que bizarrement on ne sent pas dans sa peinture. Sa peinture est d'une souplesse, d'une sensualité et d'une douceur pour le regard qui laisse pantois quand on sait qui produit ça, quoi. C'est ça aussi, c'est génial, quoi, la plasticité de l'humain, qu'on est capable de produire le pire comme le meilleur, quoi. Et c'est assez génial, quoi. On a quand même de la chance d'être cette créature là dans la vie.
On a beau être punk, con, boire des bières et tout le reste, il y a quand même un cœur qui bat avec Andy Wa.
Comme dans les deux derniers épisodes, on a toujours une petite citation, un petit témoignage d'un artiste, d'un auteur sur l'œuvre sur laquelle on a parlé, qui revient encore une fois. C'est chouette parce qu'on rebondit toujours sur les mêmes choses. Donc c'est assez sympa, mais du coup, cette œuvre, c'est aussi un mélange inquiétant et savoureux de splendeur barbare, de liturgie catholique, de rêverie hindoue, d'imagerie gothique, de symbolisme obscur et subtil. Octave Mirbeau.
Tu disais un petit peu juste avant, justement,
de subtilité, de sensualité, de souplesse.
Ouais. Bon, la rêverie hindoue, on la sent pas trop, mais c'est vrai, c'est une peinture très très riche d'inspiration. Et Paul Gauguin, qui aimait tant les voyages, nous fait aussi voyager grâce à sa peinture. Alors après, il faut quand même savoir que je continue l'histoire et on en arrêtera là. Mais donc Paul Gauguin arrive en Polynésie. Il meurt en 1903. Ses tableaux vont être ressuscités puisqu'ils vont arriver en France. Et là, il va offrir aux Français de Paris, alors qu'il est mort, le spectacle de la splendeur des îles Marquises et de la Polynésie française, créant ainsi un engouement et l'idée pour les plus aisés, les plus riches, d'aller coloniser ce territoire de nouvelles vacances. Donc c'est par aussi le biais de cette iconographie somptueuse d'un territoire qu'on ne connaît pas, qu'on va le vulgariser, le mettre à la portée de chacun, donner envie aux autres de découvrir ce territoire et petit à petit de le pourrir, puisque finalement c'est là où la France a fait les essais nucléaires et donc d'un paradis terrestre décrit par Paul Gauguin, on va avoir un désastre écologique insoutenable, que ce soit pour les humains français d'un autre département de nous, nos frères, quoi, qui sont là-bas, et un paradis, quoi. Ils ont transformé en moins de 50 ans un paradis terrestre en une déchetterie radioactive. Voilà, donc je dis bravo. Et c'est pour ça que les arts, il faut... la télévision comme l'art, enfin toutes les images qui nous amènent à un ailleurs qui nous semble meilleur, faut profiter de ces images, mais faut pas aller pourrir cet ailleurs qui nous semble meilleur, parce que c'est une tromperie. On est bien là où on est et point barre. Il faut être bien là où on est et faire avec ce qu'on a. Voilà.
Paul Gauguin par Carotte, portrait de l'artiste au Christ jaune, une œuvre qui a été réalisée du coup entre 1890 et 1891. C'était un bel épisode et du coup, j'ai pas trop envie de te quitter maintenant tout de suite. Alors, je me disais que déjà, on pouvait proposer une petite chanson aux auditeurs.
Alors, j'ai pas de petite chanson, mais par contre, il y a un album que j'adore, donc c'est de BFX, ouais, qui s'appelle Theory of the Harmony. Et je voulais quelque chose qui vous permette de passer une après-midi en musique, en étant détendu, en vous laissant aller et en ayant une musique qui provoque des belles images dans la tête et des belles couleurs. Et voilà, je suis une fan de BFX et cet album, je le trouve vraiment merveilleux pour la création pour personnelle, danser, peindre, chanter, faire de la musique. Merci de BFX.
C'est notre troisième épisode. Je voulais rendre cet épisode un peu plus original et du coup, sans te le dire, sans vraiment t'y préparer, mais il y a 10 petites questions. On se fait un petit quiz pour finir l'émission.
Écoute, j'ai pas peur d'être ridicule, j'ai pas peur du ridicule.
Mais le ridicule, il n'y a pas de ridicule à avoir.
Le ridicule ne tue pas.
Mais exactement.
Il rend plus fort.
10 questions sur l'artistique du 19e siècle.
Allez, c'est parti.
Question numéro 1. Qui a perdu la vue en peignant des nénuphars ? Jean Monnet, Édouard Manet ou Claude Monet ?
Édouard Manet. Claude Monet, pardon. Les nénuphars, c'est Claude. Et c'est
tout
pas le même. Hein. Confondons pas les voyelles Manet, Monet. Mais c'est vrai qu'on les confond. Bon, bah voilà la preuve, comme tout le monde.
Eh bien, c'était une bonne réponse.
Non, merci.
Qui est l'inventeur du pixel en peinture ? Camille Pissarro, Pablo Picasso ou Georges Seurat ?
Ben, Seurat, je dirais.
C'est encore une bonne réponse.
Ouais. Bon, c'est des petits ronds, c'est pas des petits carrés, mais ça marche.
Le fifre désigne un enfant espiègle, un joueur de flûte, un défaut de prononciation.
C'est un enfant espiègle qui joue du flûtio, et c'est un tableau d'Édouard Manet.
C'est un joueur de flûte.
Ouais, mais c'est un enfant. C'est le petit Léon, son beau-fils, qui est représenté.
De la Goulue à Nicole Kidman, quelle est la couleur préférée des cancaneuses ? Soit violet, soit roux, soit vert.
Ben, c'est roux, rouge, bien
c'est
sûr.
C'est roux, tout à fait.
Ben oui, ils auront la rousse et tout, il faut être rousse.
L'origine du monde a appartenu à...
Ben on l'a dit.
Jacques Lacan, ouais. Sigmund Freud ou Hubert Reeves ?
Ben, je ne sais pas si Hubert Reeves l'a acquis depuis, mais c'était chez Lacan qu'il était. Et
yes.
Il était, tu sais, on en a parlé avec Gustave Courbet, là.
Ouais,
il était dans une petite boîte, et donc pour ses visiteurs les plus chéris, il l'ouvrait, et j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Bon, voilà, donc il avait le tableau du pornographe le plus célèbre du monde.
Là, c'est pareil, on en parlait, c'est cool, ça fait un petit lien avec l'émission qu'on vient de faire. La toile la plus chère du monde est un Van Gogh, Cézanne ou Gauguin ?
Bah, je sais pas parce que ça change tout le temps, mais je dirais que c'est... Bah, je croyais que c'était Impression sur Venise, là, encore le Claude Monet, mais j'irais un Van Gogh.
Et bah, c'est triste, mais non, c'est Gauguin dont on vient de parler.
Voilà, vous voyez.
Bravo.
Bah, je suis dégoûtée.
Et bah, je pense qu'on l'est tous. Tous ceux qui ont suivi l'émission.
Non, mais parce que le livre, ça dépend aussi de quand il date. Hein, parce que les ventes, les records de ventes aux enchères, ça change tout le temps. Hein. Ils essayent toujours de faire des records de ventes. C'est un peu leur job aux gens qui font les enchères. Donc, ça change. Un jour, ce sera Carotte. Tu verras.
J'en doute pas. On est sur la 7e question, et du coup, c'est presque un sans faute hein, jusque-là. La première grande rétrospective Gustave Caillebotte a eu lieu aux États-Unis, du côté de Nogent, sur un parquet verni.
Ben, je ne sais pas, je dirais sur un parquet verni à cause des rappeurs de parquet, là, de Caillebotte, mais j'en sais rien en fait, je ne sais pas.
États-Unis,
okay.
Du coup.
Bah, c'est
bien moins original.
Non, mais c'est ça qui a pu le rendre célèbre aussi. Hein. Faut bien savoir que des œuvres qui sont vues aux États-Unis par le plus grand nombre, hein, parce que on n'a pas non plus la même démographie que là-bas, et collectionneurs d'art, férus d'art, intérêt pour l'art. Il y a des fanas de l'art français par là-bas. Donc ensuite, c'est
alors pour la 8e question, je vais être sympa. Il y a un petit piège. Je te le dis.
Ouais, vas-y, sois sympa.
L'Arlésienne désigne une héroïne d'Alphonse Daudet, une icône post-impressionniste, une femme invisible.
Je sais pas. Une. C'est quoi la première
enfin, une héroïne d'Alphonse Daudet. Une icône post-impressionniste et une femme invisible. Et il y a un piège dans tout ça.
Une icône post-impressionniste, parce que Alphonse Daudet, ça me dit pas l'Arlésienne, mais alors ?
Eh bah, ben, c'est les trois.
C'est les trois. Ben voilà. Ben,
c'était ça le piège.
Et pourquoi une femme invisible ?
Eh bah, ben, ça, il faut le voir dans la prochaine émission.
Bon, ben voilà.
On en parlera. Le monument commémoratif à Lady Diana est l'œuvre de Frédéric Auguste Bartholdi, Auguste Rodin ou Camille Claudel.
Hein, De quoi? De Lady Diana?
Le monument commémoratif. Donc ça doit être une œuvre. C'est le monument commémoratif à Lady Diana et l'œuvre de...
Un qui est vivant dans les années 90.
Frédéric, Auguste ou Camille?
Frédéric, alors on va dire. Frédéric,
c'est ça.
Parce que les
Frédéric,
autres,
Auguste,
morts.
Bartholdi.
Les autres sont morts, donc... voilà, Lady Di, encore dernière. Une icône du XXe siècle. Elle n'a pas été assez peinte, dommage. Et la dernière.
Alors, Jacques-Émile Blanche est surtout connu pour son portrait de Dorian Gray, Marcel Proust ou Robert de Montesquieu.
Robert de Montesquieu.
Montesquieu. Marcel Proust, la réponse.
Marcel Proust. Ouais, je ne savais pas. Voilà.
Merci de t'être prêtée à ce
quiz. J'adore, merci.
Je t'en préparerai 10 autres si tu veux pour la prochaine fois.
Ouais, d'accord.
Je suis prête à relever le défi.
Air d'Ivoire, la radio de la joie.
En tout cas, il est chouette ce petit livre. J'ai vu que c'était le Louvre qui... le M, là, c'est pour le musée du Louvre, je crois. Et je crois qu'il y a aussi une série... parce que là on est sur le 19e siècle, mais je me demande s'il n'y en a pas un sur des œuvres plus anciennes, genre un peu plus classiques, à voir. En tout cas, c'est un très beau petit guide, et les gens qui l'ont acheté en sont très contents. Alors moi je ne sais pas parce que je ne l'ai pas, c'est Malo qui l'a entre ses mains dans sa boîte secrète avec son origine du monde.
Si tu veux, je te le laisse aujourd'hui, tu me le rends la semaine prochaine.
D'un autre côté, il ne faut pas trop que je le... Non, mais je ne veux pas.
On aime bien le spontané.
Avoir la surprise. Et puis de toute façon, si tu me présentes un tableau sur lequel je ne sais rien, comme ça à la radio, on pourra truquer, on passera, que je connais. Voilà, c'est tout.
Nous dénonce pas.
Non, mais je ne veux pas dénoncer, mais je veux que les éditeurs de l'artichaut soit sûr qu'il y a de la sincérité, mais il y a aussi de la qualité derrière, et que je voudrais pas faire passer une information fausse, et que faudrait que je fasse un erratum après pour que vous ayez que des choses vraies dans les oreilles. Bon, bien que la vérité est un concept en soi, et que je suis pas sûre que tout ce qui sort de ma bouche soit la vérité non plus, j'ai bien dû aussi moi lire et me cultiver, et donc je fais confiance à d'autres que moi. Mais par rapport aux petites histoires que je vous raconte, c'est vraiment mon esprit tordu, diraient certains, qui cherche, parce que quand ça bloque, quand je bloque, je bloque. Et pour le petit Vincent Van Gogh, toute petite déjà, j'ai bloqué sur cette histoire en me disant « mais non, mais c'est pas possible ». Ou alors, franchement, on a affaire à un bénet, un débile mental. Enfin, y a des choses dans lesquelles on ne fera pas croire, quoi. Et c'était pas les dernières dans lesquelles j'ai pas voulu croire, bien sûr, parce que depuis, il y en a eu des encore plus grosses. Mais voilà, il faut garder son esprit critique et pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit ou tout ce qu'on vous ressasse. Il faut réfléchir par soi-même. Et j'adore la peinture parce que la peinture, étant donné que les gens ont représenté leur époque, donc selon le milieu duquel ils venaient ou leur point d'intérêt, on peut, grâce à la peinture, avoir une vision un peu du monde. Des classes nobles jusqu'aux classes pauvres dans toutes les couches du temps, parce qu'il y a toujours eu des artistes, et du coup la lecture du temps et de l'histoire par le biais de la peinture me semble une très bonne chose. Que les peintres aient encensé les gagnants, les empereurs, les tyrans, les dictateurs, parce qu'ils avaient les commandes, et qu'avec les sous des commandes ils fassent vivre la paysannerie, la nature, la terre, ou qu'ils essayent de rendre compte de toutes les idées qui leur passent par la tête par rapport à Jésus, par rapport à l'idée des croisades, par rapport au trésor, par rapport aux croyances, par rapport aux rituels, par rapport à ce qu'on doit faire, par rapport à ce qu'il est interdit de faire. Enfin, il y a là un champ, l'art, c'est le plus beau champ d'exploration du monde. Parce que dans chaque tableau, même une commande, le peintre, il y a mis quelque chose à lui. Il y a mis un repentir, il y a mis un piège, il y a mis une carte au trésor, il y a mis un gros X. Aucune peinture n'est innocente et aucune peinture n'est en ce sens gratuite. Quand tu te prends la tête à prendre des pinceaux et une œuvre et que tu t'y lances et qu'à la fin, tu sors quelque chose de dense, de riche, c'est que il y a un message. Tu ne t'emmerdes pas à juxtaposer des couleurs pour le plaisir de le faire. Il y a derrière un sens caché. Et ce sens caché qui est mis dans la peinture, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et on pourrait tout à fait aussi imaginer un livre de pourquoi c'est pas connu. Parce que finalement, dans pourquoi c'est connu, il y a les refusés. Il faut bien voir que de leur temps, les refusés, comme leur nom l'indique, ils étaient refusés. Ils passaient pour des iconoclastes, fous, obscènes, n'ayant aucun goût. Enfin voilà, des gens qui n'y connaissaient rien à l'art. Et pourtant, là-dedans, c'est nos maîtres. C'est nos maîtres qui ont été refusés. Donc il y a aussi beaucoup à comprendre là-dedans. On n'arrive pas toujours dans le bon espace-temps pour son art. On peut être très en avance et auquel cas il faudra attendre de nombreuses années après sa mort pour être reconnu. Il faut aussi produire beaucoup. Il faut laisser derrière soi, je veux dire, on peut parler à plus de quelques centaines d'œuvres pour commencer aussi à avoir la case artiste. Donc il faut être productif. Donc voilà, il faut remplir beaucoup d'étapes et de cases pour pouvoir avoir accès un jour à une vue publique, c'est-à-dire être mis en avant par tout un système culturel qui dit aujourd'hui cet artiste il vaut des millions de dollars. Parce que c'est pareil, le prix de l'art qui n'en est pas un, c'est des valeurs inestimables auxquelles on donne une valeur. Et il y a quelque chose aussi de dérangeant, parce que j'adorerais que toutes les œuvres majeures soient du domaine public et qu'on puisse les visiter. L'idée que Lacan ait caché son origine du monde dans un petit coffret en bois et qu'il ne l'ait sorti que pour ses copains, c'est proprement parlé scandaleux. Enfin voilà, moi ça m'énerve. Donc ça doit pas être pour les nantis. L'art, c'est une expression populaire. En fait, rien n'est plus simple que de prendre des crayons de couleur. Quand un enfant fait un dessin avec les crayons qu'il a dans sa trousse, il produit un genre d'œuvre d'art. Alors, ce n'est pas toujours un chef-d'œuvre, mais c'est... Et ça lui est nécessaire pour sa construction, parce que c'est aussi en dessinant qu'il va apprendre à faire les lettres. Et après, on s'aperçoit que les enfants, dans leur dessin, il y a des A, des B, des C qui apparaissent et ils vont passer au stade de l'écriture. Donc, on sent bien dans le dessin aussi les évolutions. On sent la personnalité, on sent le chagrin, on sent la joie, on sent le désespoir. Les couleurs, les cadrages, les sujets sont toujours... voilà, c'est de l'expressionnisme, quoi. Comment être plus dans l'expression que dans la peinture ? Je ne sais pas, les gens vous diront la musique. Mais moi, c'est vrai que j'ai besoin de donner à manger à mes yeux, parce que le monde est tellement laid que pour les laver... Il faut que je me plonge dans des œuvres d'art belles chaque jour pour me laver le regard. J'aime contempler le beau et je m'en lasse pas. Et après, du coup, ça me permet de pouvoir mieux vivre dans une forme de brutalité insensée et insensible qui sont un peu nos quotidiens, quoi, aujourd'hui. Et j'ai plaisir à aussi faire de la peinture. Il y a un tableau que j'ai commencé à la yourte et tout, parce qu'en fait, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que j'habite avec mon amoureux, qui est artiste aussi, dans un bus, et que malheureusement, le bus est trop petit pour nous permettre d'y travailler de bonne façon, quoi, avec un peu de recul, un peu de confort, un peu d'espace, et qu'en ce moment, il y fait très chaud. Mais cela dit, j'ai repris ma petite activité artistique là où je l'avais laissée, et ça me fait... un bien fou, en fait, j'adore ça. À Barnave, on trouve des fans de la Terre. Et d'ailleurs, j'ai partagé avec elle une expérience hier qui s'appelle « Son de la Terre », où on a eu à pouvoir malaxer à trois filles en maillot de bain dans la nuit avec juste des petites bougies, 400 ou 500 kilos de terre. C'était une très belle expérience un peu mystico-magique comme ça. Et je remercie Aurélie à Barnave de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir communier avec la Terre, rentrer dans la Terre, sortir de la Terre, ressusciter de la Terre. Et merci à la Terre de nous donner de l'inspiration et des couleurs pour peindre.
Besoin d'un gros bol d'air frais ? Te sentir en haut de l'Himalaya ? Écoute Air Diwa.
Merci à toi, Carotte, pour cette belle émission.
Merci, j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. On a dit on part pour 60. Hein.
Bah oui, c'est ça, il nous en reste 57.
Donc, je ne sais pas comment les... Est-ce que les auditeurs de RDIWA, et particulièrement de notre émission L'Artichaut, ont un petit endroit où ils peuvent mettre des commentaires ? et venir faire des petites critiques ou améliorer notre petite émission ou nous donner par exemple des peintres, des noms de peintres dont ils aimeraient apprendre plus, savoir plus et mieux. En tout cas, sachez que moi, j'ai pas peur de la critique et j'aime aussi rencontrer les gens qui partagent la même passion que moi pour la peinture. Donc, si vous êtes proche de Luc Andiwa et de l'espace de vie sociale, ben n'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer et partageons ensemble un peu plus qu'un moment radiophonique, mais pourquoi pas une petite expo, par exemple, dans les locaux de l'EVS. Et voilà, de montrer mon travail à moi et de parler de ce que c'est le mieux. Donc voilà, ma paterne, mon motif. Mais en tout cas, sachez que cette émission, je ne veux pas que les ondes partent dans l'espace froid, sidéral et intergalactique, mais que ça touche vos cœurs et vos esprits. Et si je pouvais avoir des retours, je serais plus que ravie et satisfaite.
Eh ben vous pouvez en tout cas déjà nous écrire sur le101.7@rdiwa.fr. Et après, comme dit Carotte, si vous êtes sur le territoire du Haut-Diwa, il y a toujours moyen de nous croiser soit à l'EVS, soit à mardi en Barnavi, parce que tu vas y être tout l'été de toute façon.
Jusqu'au 29, mardi.
Donc, s'il y a des Barnavois ici, ou en tout cas des habitués des mardis en Barnavi, vous pouvez la rencontrer à ce moment-là pour parler d'un épisode, d'une émission, d'une idée, d'un peintre, comme elle disait. La radio, c'est un accueil collectif pour tous et ça fait toujours du bien en fait de parler des choses qu'on aime et c'est une chance qu'on a en radio de pouvoir prendre un temps pour parler des choses qu'on aime, qui nous font vibrer. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur, un génie pour faire de la radio. Si vous avez des choses à partager, et vous êtes les bienvenus.
Absolument, venez, partageons tous ensemble. Je vous aime, merci les auditeurs de l'Artichaut. Et donc, nous, on enregistre le mercredi, mais c'est pour une diffusion, donc le vendredi soir.
À 20h.
Et très bonne fin de semaine à vous et à mercredi prochain alors, Malo. Merci.
À mercredi, ciao.
In the mouth of the beast with the fist in the air, I march on. For the hunter is hunted, its sword has been blunted by echoes of hunger and song. It's blinded by lust from an ultimate plane in a castle that lives in the sky. My mission at hand is to murder its plan and bring down the all-seeing eye. Together we stand in the fight for the right to be free from the lies and deceit. Our brains have been washed and our souls have been lost, yet we will not back down nor retreat. They will not give up, it is obvious. So we will unite with our consciousness, and eventually we're going to repossess the freedoms we had while we cleaned the mess. Now as I stare into space, I can see distress on the physical plane of our consciousness. The things that we want, we can manifest. All we need is to focus. In the land of dreams, it's an endless sea where the conscious breathe for eternity. We can all unite there collectively, but we need to believe it's easy. Cause there are too many minds who are waking up, and there are too many lies in the media. And now the youth of our culture is shaping up to be the spiritual army who will fight ya. But if we